Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 4. La femme d'Enchard avait agi pour le mieux, mais ne s'était pas moins laissée entraîner dans de multiples difficultés. 100 fois, elle avait été sur le point de raconter à Elizabeth Jane la véritable histoire de sa vie et la crise tragique de cette transaction conclue à la foire de Weydon, alors qu'elle n'était guère plus âgée que la jeune fille aujourd'hui. Mais elle avait contenu son désir et laissé grandir l'enfant innocente dans la conviction que les liens qui unissaient le brave marin et sa mère étaient aussi légitimes qu'ils le paraissaient. L'idée de compromettre l'affection si tendre de sa fille, en troublant une certitude affermie par le temps, était pour Mrs. Enchard une crainte trop terrible à envisager. C'eût été folie, bien sûr, que de vouloir éclairer la sagesse d'Elizabeth Jane. Mais la terreur qu'inspirait ainsi à Suzanne Enchard l'idée de perdre le cœur de sa fille bien-aimée ne tenait nullement à un sens quelconque de ses propres torts. Sa simplicité, cause première du mépris d'Enchard pour elle, lui avait permis de vivre des années dans une quiétude parfaite. À son sens, l'achat fait par Newson avait donné au marin un droit moralement réel et justiciable sur sa personne, bien que la portée exacte et les limites légales de ce droit fussent assez vagues. Il peut paraître étrange à des esprits sceptiques qu'une femme de bon sens pût croire au bien fondé d'un marché de ce genre, et la chose serait à peine admissible en effet s'il n'y avait de nombreux exemples d'une conviction semblable. Mais Suzanne n'est pas, à beaucoup près, la première ou la dernière paysanne qui se soit religieusement attachée à son acheteur, comme le prouvent trop de faits consignés dans les annales de la vie rurale. L'histoire et les aventures de Suzanne Enchard, pendant ces 18 années, tiennent en peu de mots. Sans résistance, elle s'était laissée emmener au Canada pour y vivre plusieurs années avec le marin. Ils y avaient médiocrement réussi, bien qu'elle eût travaillé aussi dur que toute autre femme pour le confort et la joie de leur foyer. Quand Elizabeth Jane eut ses 12 ans, ils étaient revenus tous les trois en Angleterre pour s'établir à Falmouth. Là, Newson avait gagné sa vie pendant un certain temps, en utilisant ses talents de batelier et d'ouvrier en batellerie. Il s'était alors engagé dans les affaires de Terre-Neuve, et c'est à cette époque que Suzanne avait connu un réveil de conscience. Un ami à qui elle contait son histoire lui fit honte de la gravité tranquille avec laquelle elle acceptait sa situation. C'en fut fini dès lors de la paix de son esprit. En rentrant chez lui, à la fin de l'hiver, Newson comprit que l'illusion qu'il s'était si tendrement appliqué à entretenir s'était évanouie pour toujours. Il y eut des heures de tristesse où elle lui dit ses doutes. Elle ne se sentait plus le droit de vivre avec lui. Newson repartit quand la saison du trafic de Terre-Neuve fut revenue. La nouvelle de sa mort en mer résolut un problème devenu torturant pour l'humble conscience de la pauvre femme. Elle ne le revit plus. D'Enchard, il n'avait jamais eu aucune nouvelle. Pour les serfs du travail, l'Angleterre en ce temps-là représentait un continent et un mille était un degré géographique. Elizabeth Jane s'était développée de bonne heure. Un jour de cette 18e année, quelques semaines après la nouvelle de la mort de Newson, au large du banc de Terre-Neuve, elle était assise sur une chaise d'osier dans la chaumière que les deux femmes habitaient encore et confectionnait un filet de pêcheur. Sa mère, qui s'activait au même travail dans le fond de la pièce, laissa tomber tout à coup la grosse navette de bois qu'elle garnissait de ficelles et fixa sur sa fille un regard pensif. Le soleil, entré par la porte de la chambre, tombait sur la tête de la jeune fille et sur ses cheveux flottants, et les rayons jouaient dans les profondeurs de cette chevelure comme dans un buisson de noisetiers. Un peu pâle encore et comme inachevé, le jeune visage offrait toutes les promesses d'une beauté rare, beauté latente qui cherchait à se révéler sous les traits imprécis de l'adolescence et sous le masque de pauvreté qu'imposait une vie misérable. Elizabeth Jane était belle de ligne avant de l'être dans sa chair. Peut-être au surplus ne connaîtrait-elle jamais la beauté véritable si elle n'échappait aux soucis de l'existence quotidienne avant que les traits incertains de son visage ne se fussent définitivement fixés. La contemplation de sa fille attristait la mère, et ce n'était point là de sa part tristesse irraisonnée, mais déduction logique. Les deux femmes subissaient encore l'étreinte de cette camisole de force de la pauvreté, dont Suzanne Enchard avait si souvent tenté de s'affranchir pour l'amour de sa fille. Elle avait senti depuis longtemps qu'un ardent besoin d'expansion palpitait dans cet esprit à peine éclos. Dans le cœur d'Elizabeth Jane brûlait en effet le désir ingénu de voir, d'entendre, de comprendre. Devenir une femme à l'intelligence éclairée, à la réputation solide et, comme elle le disait, meilleure, tel était le vœu qu'elle exprimait constamment à sa mère. Elle cherchait plus avant dans les choses que ne le font d'ordinaire les jeunes filles de sa situation, et Suzanne sentait, en gémissant, son incapacité à lui servir de guide. Le marin n'était plus maintenant, et la religieuse fidélité conjugale dont Suzanne avait fait montre à son égard, jusqu'au jour où une explication cruelle avait troublé sa foi, n'avait plus de raison d'être. Elle se demandait si l'heure de cette libération n'était pas le moment opportun à saisir, dans un monde où toute chose s'était montrée si inopportune pour elle, pour faire, en faveur d'Elisabeth, un effort désespéré. Mettre son orgueil en poche et rechercher son premier mari lui parut, à tort ou à raison, la première démarche nécessaire. Sans doute Enchard était-il mort d'ivrognerie, mais peut-être aussi avait-il eu assez de sagesse pour résister à la passion qui, aux anciens jours, l'assaillait par crise plutôt qu'elle n'était chez lui une habitude invétérée. Quant à retourner chez lui s'il vivait encore, cela s'imposait incontestablement. La difficulté principale était d'éclairer Elisabeth, et Suzanne ne pouvait se faire à cette idée. Elle finit par se décider à se mettre en quête d'Enchard, sans révéler à sa fille la nature des liens qu'il avait attachés au bottleur. Elle lui laisserait le soin, si elle le retrouvait, de prendre à cet effet toute décision opportune. Ceci nous explique la conversation des deux femmes sur le champ de foire, et l'ignorance où vivait Elisabeth. Elles entreprirent leur voyage dans ces conditions, n'ayant pour se guider vers la demeure d'Enchard que la lueur confuse due aux renseignements de la marchande de Fromenté. La plus stricte économie s'imposait, et c'est tantôt à pied, tantôt sur des charrettes de ferme ou des voitures de rouliers, qu'elles firent la route de Casterbridge. Chemin faisant, Elizabeth Jane s'aperçut avec inquiétude que la santé de sa mère n'était plus ce qu'elle avait été. De temps en temps, passait dans ses paroles un accent de renoncement qui disait sa lassitude et la facilité avec laquelle elle eut, sans la pensée de sa fille, quitté une vie qui lui devenait de plus en plus pesante. C'est un vendredi de la mi-septembre, un peu avant le crépuscule, que les deux femmes arrivèrent au sommet d'une colline, à une demi-lieue à peine de la ville qu'elles cherchaient. La route bordée de haies était encaissée à cet endroit. Escaladant le talus gazonné, elles s'assirent en un point d'où la vue commandait la ville et ses alentours. « Quelle vieille ville !» s'écria Elizabeth Jane, sans s'apercevoir que sa mère songeait à tout autre chose qu'au paysage. « Elle est toute serrée et enclose dans un mur d'arbres, comme un parterre de jardin dans ses bordures de buis. » Cette forme carrée était en effet le trait le plus caractéristique de cette bourgade antique, la vieille cité de Casterbridge, encore vierge du moindre soupçon de modernisme à l'époque relativement récente dont nous parlons. Elle était compacte, comme une boîte de dominos, et ne possédait pas de faubourg au sens propre du mot. Ville et campagne, confinées, suivant une ligne mathématique. Aux grands oiseaux planeurs, Casterbridge serait apparu par cette soirée comme une mosaïque de rouge pâli, de brun, de gris, de cristaux taillés, contenu dans un cadre rectangulaire de vert sombre. Pour un œil humain, elle formait une masse indistincte, masquée par un épais rempart de tilleuls et de châtaigniers, et placée au centre d'une vaste cuvette de plusieurs milles de champs inclinés. L'œil décomposait peu à peu cette masse en ses éléments de tours, de pignons, de cheminées et de fenêtres. Çà et là, des vitres brillaient d'un sombre éclat de sang sous les feux cuivrés du soleil couchant que reflétait dans le ciel une ceinture de nuages. Du milieu de chaque bordure d'arbre partait une avenue qui s'allongeait, à l'ouest ou au sud, jusqu'à 1 mille et plus, à travers les champs de blé et les combes boisées. C'est par l'une de ces avenues que les deux voyageuses devaient pénétrer dans la ville. Elles allaient se remettre en route lorsqu'elles entendirent de l'autre côté de la haie deux passants qui discutaient avec animation. « Écoute !» fit Elisabeth, quand les deux hommes se furent éloignés. « Ils ont prononcé le nom d'Enchard, le nom de notre parent. »« Il m'a paru l'entendre aussi, » finit Mrs. Newson. « Cela semble indiquer qu'il habite toujours ici. »« En effet. Veux-tu que je cours après eux pour leur demander des renseignements ?»« Non, non, pas encore, pour rien au monde. Savons-nous s'il n'est pas en prison ou au dépôt de mendicité ?»« Mon Dieu, qu'est-ce qui peut te faire croire cela, maman ?» « Oh, je dis cela comme je dirais autre chose, mais il faut d'abord faire une enquête discrète. » Suffisamment reposées, les deux femmes se remirent en route à la nuit tombante. Malgré le demi-jour qui baignait encore confusément la plaine, la voûte épaisse des arbres faisait de l'avenue un véritable tunnel d'ombre, et les voyageuses s'avançaient dans une nuit bordée de crépuscule. L'aspect de la ville intéressait fort la mère d'Élisabeth, maintenant que s'y affirmait le caractère humain. Elle vit, au bout de quelques pas, que la ceinture d'arbres noueux serrée autour de Casterbridge formait elle-même une avenue tracée sur un petit remblai verdoyant, escarpement doublé à l'extérieur d'un fossé encore visible. En dedans, au contraire, s'élevait un mur plus ou moins continu, à l'intérieur duquel se pressaient les maisons. Murs, remblais et fossés constituaient les anciens remparts de la ville, transformés en promenades. Les réverbères, qui brillaient maintenant à travers la ceinture de feuillage, donnaient au cœur de la ville un aspect de paix et de bien-être, et renforçaient l'étrange impression de solitude produite par une campagne sombre et si proche pourtant de la vie. Le contraste était accentué encore par un bruit qui dominait tous les autres, musique d'Orphéon qui venait frapper les oreilles des deux femmes. Elles gagnèrent la rue haute, bordée de maisons en bois, à étages en surplomb, dont les fenêtres à croisillons s'abritaient derrière des stores de basin. Sous leurs auvents, des toiles d'araignées flottaient dans la brise. D'autres maisons étayaient sur les édifices voisins leurs cloisons de briques. Certaines possédaient des toits d'ardoise rapiécés avec des tuiles, d'autres des toits de tuiles rapiécés en ardoise, quelques-unes des toits de chaume. Le caractère agricole et pastoral de la population s'affirmait dans le choix des objets exposés aux devantures des boutiques. Faux, faucilles, tondeuses à moutons, hachettes à élaguer, bêches, pioches et houes s'étalaient dans les quincailleries. Ruches, tonnelets, barades à beurre, seaux à lait, tabourets pour la traite, râteaux de faneurs et semoirs. Chez les tonneliers, traits de voitures et harnais de charrues chez les celliers, charrettes, brouettes et moufles chez les charrons et les mécaniciens, en brocation pour les chevaux dans les pharmacies. Chez les bourreliers et les tanneurs, gants à tailler les haies, genouillères de couvreurs, guêtres de journaliers, socques et sabots pour les villageois. Les deux femmes arrivèrent devant une église noirâtre, dont la grosse tour carrée s'enlevait d'un bloc dans le ciel obscurci. Les réverbères voisins en éclairaient le pied et montraient les interstices d'un mortier effrité par les siècles et les intempéries. Dans les crevasses ainsi formées, de petites touffes d'herbes et d'orpins avaient poussé presque jusqu'au créneau. L'horloge de la tour sonna 8 heures, et une cloche fit aussitôt entendre sa voix péremptoire. Le couvre-feu était encore en vigueur à Casterbridge et servait de signal aux habitants pour clore leurs boutiques. À peine les notes profondes de la cloche passaient-elles sur les maisons qu'un vacarme de volets retentissait d'un bout à l'autre de la rue haute. En quelques minutes, toutes les affaires du jour cessaient à Casterbridge. Une à une, les horloges sonnaient 8 heures. L'horloge maussade de la prison d'abord, puis, au pignon d'un hospice, une vieille ferraille dont le grincement préalable retentissait plus haut que le son de la cloche. Chez un horloger, au moment même où les volets se refermaient sur la boutique pour la nuit, une rangée de hautes pendules de campagne au coffre verni sonnait l'une après l'autre comme un groupe d'acteurs pressés de lancer leur tirade finale avant la chute du rideau. Puis ce fut un carillon, égrenant les notes de l'hymne du marin sicilien, si bien que dans leur hâte, certaines des machines à compter le temps avaient déjà sensiblement entamé l'heure suivante avant que les autres n'eussent définitivement clos celle qui venait de s'écouler. Sur la place de l'église passait une femme aux manches de corsage roulées si haut que l'on voyait le blanc de sa chemise et aux pans de jupe relevés et passés dans sa ceinture. Elle portait une miche sous le bras et en arrachait de petits morceaux pour les tendre à d'autres femmes qui marchaient près d'elle et y goûtaient d'un air critique. Cette vue rappela leur faim à Mrs. Henchard Newson et à sa fille, et elles s'enquirent auprès de la femme de la plus proche boulangerie. « Autant chercher de la manne que du bon pain à Casterbridge en ce moment, » répondit celle-ci, après leur avoir donné l'indication requise. « Ils peuvent bien taper leur tambour, souffler dans leur trompette et faire des festins ronflants. » Elle désignait de la main un édifice illuminé situé un peu plus haut dans la rue et devant lequel jouait la fanfare. « Mais c'est tout de même nous qui pâtissons, et n'avons pas de pain convenable à nous mettre sous la dent. Il y a moins de bon pain que de bonne bière à Casterbridge en ce moment. »« Et moins de bonne bière que de rinsure, » insista un homme, les mains dans les poches. « Comment se fait-il que vous n'ayez pas de bon pain ?» s'étonna Mrs. Henchard. Oh, c'est notre gros marchand de grains, l'homme à qui doivent s'adresser ici tous les meuniers et les boulangers, qui leur a vendu du blé germé. Ils disent qu'ils s'en sont aperçus en voyant la pâte couler dans les fours comme du vif argent. Les miches restent plates comme des punaises, et quand on les ouvre, on croirait du pâté à la graisse. J'ai été ici épouse et mère, mais je n'ai jamais vu pain aussi honteux à Casterbridge. Il faut que vous veniez de loin pour ne pas savoir ce qui a fait enfler tous les pauvres gens comme des vessies soufflées depuis une semaine. Je viens de loin, en effet, répondit timidement la mère d'Élisabeth. Craignant de se faire remarquer avant d'être mieux fixée sur son avenir dans la ville, elle fit signe à sa fille et quitta son interlocutrice. Elles achetèrent dans une boutique une couple de biscuits pour leur tenir provisoirement lieu de repas et se dirigèrent instinctivement vers l'endroit où jouait la fanfare.